Les cours du Collège de France, Peter Sloterdijk, Cher, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être présent. Et merci d'être prêt à recommencer nos efforts à comprendre la situation européenne. Aujourd'hui, je vais essayer d'éclairer le terme Europe latine, le continent, l'impérium et ses transferts. Donner le nom de continent à une région du monde telle que l'Europe paraît avoir constitué dans un premier temps une convention de langage dénuée de risques. Elle profite de l'erreur bien rodée depuis le XVIIIe siècle que commettent les cartographes et les géographes lorsqu'ils qualifient de continents des masses de terre attachées les unes aux autres, comme si les sols étendus des terres fermes étaient des contenants qui transforment en contenu ce qui se trouve en eux et sont combattis sur eux. Depuis la modernité planétaire inaugurée par les voyages de Christophe Colomb et de Magellan, nous devrions savoir pourquoi le rapport entre contenu et contenant se présente en réalité à l'inverse. Les contenants effectifs, ceux qui méritent le nom de continents, ceux qui assurent la cohésion, sont les mers globales que l'on a nommées d'après le fleuve grec du monde, Okeanos, tandis que les grandes masses de terre, si on les conçoit correctement, ne sont pas des contenants, des containers, mais des contenus, content, des ensembles de sols et de populations arrosées par la mer. Si nous cherchons les termes appropriés pour nommer ce contenu qu'est l'Europe, nous nous heurtons à un phénomène divergent dont on ne vient pas à bout en ne marquant pas l'expression « identité ». Qu'est-ce que l'Europe ? Cette identité, cette entité, a-t-elle une essence, un noyau, une substance ? Les réponses négatives à ces questions souvent posées sont trop nombreuses pour qu'on les récapitule une fois, pour une. Parce que l'Europe, si l'on met entre parenthèses le fait qu'elle constitue l'annexe occidentale, est faussement comprise comme un continent. La masse continentale asiatique, du point de vue de Paul Valéry, son contrefort, aux yeux de Derrida, l'autre cap, et selon Danilevski, un auteur russe slavophile, un agrégat confus de presque îles, est-elle encore quoi que ce soit de réel à quoi l'on pourrait attacher sa définition? Après un siècle de controverses sur la nature, l'essence, la substance, les frontières, la mission, le fardeau, la passion ou l'héritage de l'Europe, nous voulons ici nous convertir à professer un accès rigoureusement pragmatique. Au lieu de courir après des fantômes essentialistes, nous comptons nous contenter de cette question: que fait l'Europe et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est au plus auprès d'elle-même? Qu'est-ce qui revient à demander s'il existe quelque chose qui permettrait de reconnaître les Européens dès qu'ils se comportent en agents typiques de leur pôle culturel? Bref, nous reconnaissons la nécessité, si l'on veut parler de l'Europe, d'opérer un passage de la pensée essentialiste ou substantialiste à la pensée dramaturgique ou scénographique. Et depuis toujours, ce qu'on appelle l'intelligence ou la faculté de comprendre ne se réfère pas seulement à des mots, des phrases, des textes, contrairement à ce qui est devenu un common sense parmi les philosophes modernes du langage. Elle se réfère aussi de toute éternité à des ensembles de situations et de signes que l'on appelle des scènes entre gens de théâtre. Et l'intelligence est la capacité de lire sous la forme de scènes. Et penser l'Europe de manière dramaturgique et scénique, cela implique la tâche consistant à désigner au sein de cette partie du monde un lieu privilégié dans lequel ont été composés le scénario et la didascalie de ce qui suivra. Et quand nous parlons ici qui suivent du livre de l'Europe, et quand nous annonçons qu'il s'agira d'y poser quelques marque-pages, et cela, on verra, de préférence sur des passages très pélus, nous devrions nous être entendus sur ce qu'est la métaphore du livre. Les cultures et les livres ont en commun ce trait que, en eux, le fait de tourner les pages et le prolongement de modes de vie au sein des générations suivantes constituent des équivalents formels. Les modes de la lecture ou les formes de la remise en scène représentent une troisième dimension entre les cultures et les livres. Ils permettent de donner de nouvelles représentations d'anciens éléments d'une culture qui se sont coagulées pour former des pièces. Et les remises en scène forment le milieu actif entre la page tournée et la reproduction. Remettons-nous pour un instant à l'esprit d'importance du geste consistant à tourner les pages pour la conscience historique en général et même plus largement pour le sens de la cohérence et de l'ordonnancement. Dans sa nouvelle publiée en 1975, le livre de sable, El libro de arena, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges a décrit le cauchemar de tout historien, plus encore de n'importe quel être humain qui voudrait s'assurer de l'ordre des choses sous la loi de la succession. Un jour, on sonne à la porte du narrateur. Un étranger au trait typique des pays nordiques se présente à lui dans l'intention de vendre des Bibles. Mais il a aussi en sa possession un autre livre sacré qui présenterait probablement un intérêt aux yeux d'un amateur. Le marchand de Bibles ajoute qu'il a échangé ce livre en Inde à un intouchable qui ne savait pas lire contre quelques roupies et une Bible. Effectivement, on trouve au dos de l'ouvrage l'inscription « Holy Writ » et le lieu d'édition « Bombay ». Le propriétaire précédent, lui a affirmé que ce livre s'appelait « Le livre de sable » parce que ni ce livre ni le sable n'ont de commencement ni de fin. Le narrateur raconte alors qu'il a échoué à plusieurs reprises dans ses tentatives d'ouvrir la première ou la dernière page de l'œuvre. Il restait toujours entre les doigts qui tournaient les pages et la couverture du livre quelques pages qui donnaient l'impression de sourdre du livre. Et quand le narrateur l'ouvre quelque part en son milieu, on voit apparaître du côté gauche de la pagination 40514 et de l'autre côté, à droite, le nombre 999. Et si l'on tourne encore la page, il trouve sur la suite suivante un nombre à 8 chiffres. Il s'avère impossible de retrouver une page que l'on a déjà ouverte. Et quand le narrateur s'exclame « ce n'est pas possible », le vendeur répond à la voix basse « cela n'est pas possible ». Et pourtant, cela est. Le nombre de pages de ce livre est exactement infini. Aucune n'est la première, aucune n'est la dernière. Je ne sais pourquoi elles sont numérotées de cette façon arbitraire, peut-être pour laisser entendre que les composants d'une série infinie peuvent être numérotés dans n'importe quel ordre. Puis, comme s'il pensait à haute voix, il ajouta « Si l'espace est infini, nous sommes dans n'importe quel point de l'espace. Et si le temps est infini, nous sommes dans n'importe quel point du temps. » Mieux qu'une autre histoire, le méchant conte du livre de sable souligne l'intérêt que l'humain porte à la finitude. Les situations finies sont les seules que l'on puisse parler de séries, des proportions et des conséquences. Elles constituent des figures fondamentales, des conditions à réunir pour que la fiction bienfaisante de la possibilité de raconter des biographies individuelles et des histoires collectives englobantes reste en vigueur. Et le livre du sable dessine l'impossibilité de raconter une histoire. Et cette impossibilité renverse toute tentative visant à retrouver une page donnée à l'aide d'un marque-page. Et on devrait sans doute rappeler ici que dans le genre antique des bioé, le genre était apparu, l'utopie européenne de l'être au livre. Elle se reflète dans cette devise forgée par Pline le Jeune et volontiers citée par les humanistes du XVIe siècle, devise qui caractérisait la vie à la lumière de cette curiosité. Aut scribenda agere, aut legenda scribere. Qu'on agisse de telle sorte que cela mérite d'être écrit, scribendum, et qu'on écrive de telle sorte que cela mérite d'être lu, legendum. Quand on représente l'Europe comme un livre, on dessine eo ipso un produit écrit sous forme de script. Et en tant que scénario validé, il assigne aux événements dont il est question des places plus ou moins fixes dans un déroulement temporel non réversible. Certains scripts, y compris celui dont il est question ici, pressentent cette curiosité que celui qui les lit risque d'être intégré à l'improviste dans une nouvelle édition. Et ce, d'une manière qui n'est pas seulement fortuite. Ils sont rédigés dès le début de ravir au lecteur au moyen d'un « tua res agitur ». Il s'agit de toi-même résolu, l'illusion de la lecture impartiale. Ici, je renvoie bien sûr à un passage très connu de la naissance de la tragédie de Friedrich Nietzsche, où il dit « C'est précisément le charme ou la magie de ces drames que celui qui les voit doit les combattre soi-même. » Et ce qui relie à la sphère du livre la dureté des entités de pouvoir dans l'espace public, c'est la fonction symbolique. En tant qu'entité de soft power, les livres relèvent de la dimension des signes. Et parmi ces signes, la primauté revient au commandement, transmis sur le mode de l'impératif. Tant que les livres, comme agents de la force douce, font des propositions qui peuvent être négligées ou acceptées, les puissances de la force dure donnent des commandements sous-tendus par le pouvoir de sanction. En latin, imperare signifie gouverner. L'impératif est le sédiment grammatical sur lequel repose l'expérience du fait que les forces de commandement et de motivation sont dans le monde. Ils sont dans le monde dans la mesure où il s'agit des voies qui fixent des buts et des signaux qui donnent direction. Elles constituent les points qui relient les mots et les faits. Et depuis l'époque de la République, on nomme imperium le pouvoir de commandement précisément circonscrit dans le temps et dans l'espace. Normalement, l'imperium d'un général durait 6 mois chez les Romains, dont disposait le commandant en chef des troupes romaines. L'imperium était pour finir le nom qu'on donnait à l'ensemble de l'espace dans lequel on respectait les commandements émanant de Rome, et le commandement des troupes était devenu avec le temps le pouvoir central dans la res publica qui se culmina avec la figure du imperator. Et après la victoire d'Octavien dans la guerre civile romaine, on les appelle les Césars parce que ce jeune homme avait été adopté et désigné comme héritier porteur de nom dans le testament de Jules César. Et la pièce originale dont on examinera ici la réintroduction dans l'Europe est intitulée Imperium Romanum. Et dans l'épopée héroïque de Virgile, le père d'Énée exhorte son fils pieux qui lui rend visite aux enfers à écouter le mandat qu'il lui donne et à ne jamais oublier en tant que Romain de diriger les peuples au moyen de son pouvoir de commandement. Dans la mesure où vous avez suivi vos cours de latin, vous auriez certainement ces paroles encore dans votre oreille. Tout Reger imperio populos romane memento, hec tibi sunt artes pacique imponere mort morem, parcere subjectiv et debellare superbos. Ja. Aujourd'hui, on traduirait parcere subjectiv. On traduirait d'une façon un peu ironique, informer les alliés et bombarder les rebelles. Comprendre l'Europe, cela signifie donc, dans un premier temps, comprendre les métamorphoses d'une entité au centre de laquelle était l'œuvre en fonction impératrice de Rome. Posons ceci sans autre opération déductive. Du point de vue dramaturgique, l'Europe est le lieu où s'opèrent des remises en scène de systèmes de commandement romains. De celles-ci découleront un jour, avec un retard de plus de 1000 ans, les États européens des temps modernes, prenant le plus souvent la forme d'États-nations, à l'exception notable de la Confédération helvétique qui n'a jamais été une État-nation. Les systèmes politiques qu'ils représentaient se sentaient condamnés à importer tôt ou tard ce qui était déjà le dilemme romain. Parce que le dilemme romain, c'est la surextension, le overstretching of the empire. À partir de l'époque d'Auguste, l'Italie, le pays germinal, eut le droit, la capacité, la volonté et la nécessité de prendre des décisions concernant des problèmes qu'elle s'était lui-même posés à la suite de son extension hybride vers la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Afrique du Nord, l'Espagne, la Gaule, la Germanie et la Britannia du Sud. Le concept de imperium impliquait à son zénith le programme Commandement sans frontières, dont on comprend sans qu'il soit besoin de plus amples commentaires, pourquoi il ne pouvait qu'échouer sur son propre écueil. Il est inutile de récapituler ici l'histoire racontée 100 fois de la chute de Rome et de sa scission entre l'espace de décadence de la Rome occidentale et la zone byzantine de prolongement militaire. Le seul élément important pour l'histoire de cette partie du monde, qui s'appellera plus tard l'Europe, est le déplacement du motif de la force de commandement vers le nord et vers l'ouest. Et si l'on devait dire à quel moment et dans quel lieu est née l'Europe, où nous vivons encore aujourd'hui, il faudrait remonter à une scène dont l'oubli a joué un gros rôle par la richesse de ses conséquences, qu'elles soient symboliques ou factuelles. En l'an 390, Ambroise, l'évêque de Milan, y avait refusé l'accès à l'église à l'empereur Théodose parce que celui-ci n'avait toujours pas fait repentance pour le massacre de Thessalonique, dont on lui attribuait la responsabilité. Dans cette ville, des milliers de visiteurs de l'hippodrome avaient été massacrés sur l'ordre impérial par des troupes goths lorsqu'une foule en colère avait voulu libérer par la force un conducteur de char populaire qui avait été arrêté. Et la scène primitive de l'Europe témoigne de la singularité de celle-ci. D'emblée, le clivage avec les autorités suprêmes s'affirme comme un élément constitutif. Bien qu'ils soient le plus souvent tributaires l'un de l'autre, le pouvoir politique et le pouvoir religieux ne parlent plus jamais tout à fait la même langue. Et la doctrine augustinienne dans la Civitas de Dieu qui ferait face à l'état terrestre jusqu'à la fin confirma peu après la dualité du pouvoir princier et du pouvoir spirituel pour le millénaire et demi suivant. Et ce que les Européens considèrent comme leur liberté résulte d'un privilège propre à nous. Propre à nous plonger dans la perplexité et celui de pouvoir servir à tout moment à deux maîtres, respectivement l'empereur et Dieu, ou encore la patrie et la vérité. Ambroise avait conçu cette possibilité qui prit ultérieurement le nom de l'Europe, en affirmant avec consistance son devoir de qualifier l'empereur de pécheur. Et l'empereur avait ouvert la mise en œuvre de cette possibilité en se soumettant au rituel de la repentance, rituel à propos duquel on commettrait un contresens moderne en le considérant comme une simple forme de théâtre. Mais quant aux survivances de ce privilège, dans le climat moniste de la fin du XIXe siècle, Lénine voulut les éliminer définitivement en prononçant sa sentence. La liberté est un préjugé bourgeois. Donc, pour entrer dans l'horizon pragmatique du phénomène historique qu'est l'Europe, il faut se familiariser avec le concept dramaturgique du reenactment, de la remise en scène. Du point de vue dramaturgique, l'ancienne Europe, inspirée par Rome et ses survivances, et dont l'oubli presque partout volontaire a débouché sur l'Europe actuelle, la nouvelle Europe, l'Europe en situation de quasi-mort cérébrale, que nous connaissons aujourd'hui, ne peut être comprise que comme un vaste événement de remise en scène. Au fil de longues saisons théâtrales, auxquelles les historiens donnent le nom d'époque, elle a su conserver sa vigueur au moyen des représentations constamment renouvelées. Et si elle est restée en marche, c'est en particulier parce que ses premiers rôles, les empereurs allemands, les rois du Portugal, d'Espagne, de France, d'Angleterre, les tsars et d'autres acteurs jouant sur la grande scène, n'ont pratiquement jamais vraiment compris à quelle pièce ils étaient déclarés disposés à participer. Les princes d'Europe, Charlemagne en tête, ont tous été des somnambules errant dans leur palais et sur les champs de bataille pour réciter sur la scène mondiale les séquences de mots solennels d'un auteur anonyme aux racines italiennes, toujours dans la conviction d'accomplir des choses qui répondaient aux intentions de Dieu et qui servaient au bien de leur peuple. Du point de vue scénographique, on pourrait qualifier l'ancienne Europe de pur effet de scénario. L'Europe donnée en spectacle a fourni la preuve qu'il existe des scénarios qui se réalisent d'eux-mêmes, des drames sans auteur individuel, que des dramaturges animés par le même génie ont réanimé de siècle en siècle, et que des princes, des politiciens et des démagogues pouvaient alors réincarner avec une fortune variable. Si l'on adopte les caractéristiques de l'impérialité et de la latinité comme des critères de recherche, les effets dramaturgiques qui ont été apportés aux nouvelles représentations de l'Empire au cours d'une période représentent presque un millénaire et demi, deviennent spontanément visibles. Il faut mentionner ici en premier lieu le transfert de l'Empire romain occidental vers l'Église chrétienne latine dans les premiers temps. Le terme « translatio » est, quant au fond, beaucoup trop faible pour dessiner ce processus, parce que l'Ecclesia triumphans de l'ère post-constantinienne n'était pas seulement arrivée aux affaires dans le rôle d'imitatrice, mais aussi et plutôt la concubine spirituelle de l'Imperium. Et à la fin du IVe siècle, elle était depuis longtemps devenue son clone, son double, son meilleur moi. Et on le voit notamment aux dimensions des archevêchés qui respectent en règle générale les frontières des diocèses administratifs romains, mais aussi les tenues des prêtres chrétiens qui marquent jusqu'à nos jours de leur empreinte la haute culture catholique, étaient dues, elles aussi, à la reprise des robes que les fonctionnaires romains portaient pour les liturgies de l'État. Et l'Église fournissait à l'appareil politique sa raison d'être, sa légitimité et sa sainte conscience, et sa bonne conscience. Et ce n'est pas sans raison que Jacob Burckhardt a noté à propos de l'évêque Eusèbe de Césarée, auteur de la première histoire de l'Église et de la grandiosement tendancieuse Vita Constantini, qui l'avait rendu des services de barbier en œuvrant sur la perruque théologique de l'empereur. Sur le présupposé que le libre transfert de l'empire virtuel sur le monde de la Civitas Dei comme matrice des rattachements suivants à l'héritage romain, on vit apparaître dans le nord-ouest européen, sous des auspices mérovingiens, carolingiens, des vastes germes de parodies de l'Empire qui aspiraient à être un jour plus que les simples imitations. Il fallut des siècles pour que du patchwork des innombrables économies dominicales et autres foyers de noblesse locaux émerge une personne légale du type de l'État. Cela présupposait, entre autres, la transformation de la cassette royale du fiscus en trésor d'État, un processus qui n'allait pas pour rester sans commentaire théologico-juridique et à la clarté duquel même les ministres des temps républicains n'ont rien à ajouter. C'est une définition du XIIIe siècle, ubi fiscus est, ibi est imperium. Sous l'angle de l'histoire culturelle, l'histoire ancienne de l'Europe latine embrasse les destinées du classicisme politique. Celui-ci s'exprimait entièrement dans le dialecte du romanisme. Il laissa des signatures précoces, tout aussi distinctes à Aix-la-Chapelle, à Goslar, à Vienne et à Paris, que plus tard à Lisbonne, à Madrid et dans d'autres métropoles. Son plus haut sommet, celui auquel on pouvait le moins attendre dans un premier temps, il l'atteignait dans la capitale britannique. Après la victoire de la flotte anglaise sur l'armada espagnole en 1588, celle-ci s'éleva au Rome de Rome, d'un Rome, d'un grand empire atlantique et pacifique, placé sous les augures anticatholiques. L'Angleterre clarifia sa prétention impériale lorsqu'elle étendit aux mers la pensée de la domination qui avait depuis toujours été reliée à des territoires. Jamais auparavant, une monarchie n'avait cru pouvoir gouverner les vagues. Même le Perse Xerxès Ier, qui avait condamné la mer à recevoir 300 coups de fouet aux Dardanelles parce qu'elle a gêné ses projets de construction d'un pont, put considérer que les eaux libres étaient accessibles à la seule sanction, mais non à la domination. Et c'est pourtant bien sous la forme de l'impérialisme maritime que l'expansion britannique s'accomplit à partir du XVIIe siècle. Et là, il s'accomplit une translatio imperii aux dimensions océaniques. Et à l'apogée de son extension, au début du XXe siècle, l'empire, empire, fondé sur la marine, l'industrie et le code of conduct du gentleman colonialisme, représentait un quart des terres habitées. Anti-romain par l'idée qu'il se faisait de lui-même, il devint au bout du compte la plus forte expression de l'impérialité de l'ancienne Europe. Et que la ville de Londres, après le grand incendie de 1666, ait fait restaurer la St. Paul's Cathedral pour qu'elle soit l'église la plus importante du monde chrétien après la basilique de Saint-Pierre de Rome, cadre bien avec le tableau qu'offre l'entrée britannique sur la scène globale. Et parmi les effets provocateurs, que l'on peut tout aussi bien appeler ces tragédies, on comptait les vives rivalités qu'elle suscita à Paris, Moscou et Berlin. Elles atteignirent leur apogée avec les blocus de Napoléon et les guerres mondiales du XXe siècle, qui furent aussi des batailles pour l'Angleterre. Pour ce qui concerne les entités impériales sur le continent, les ambitions françaises jouèrent, à partir du XVIIe siècle, un rôle particulier. Elle n'ébaucha pas en effet son pouvoir royal en respectant la ligne césaro-romaine, qui était déjà occupée par l'empire de Habsbourg, mais elle parvint d'abord avec Saint-Louis au XIIIe et avec Henri IV et les grands cardinaux au XVIIe siècle et avec Louis XIV en guise de parachèvement à former un profil spécifique d'impérialité en expansion dans la succession du royaume biblique de David. On peut remonter le programme du roi Soleil mis en œuvre par Louis jusqu'à la couronne de rayons solaires de Constantin le Grand. Elle ornait sa statue, inaugurée en mai 330 sur le forum Constantin de Byzance, qu'on appelait aussi la Nouvelle Rome. Et la légende voulait que les clous de la croix du Christ aient été inclus dans ces rayons. Et après les événements de 1789, la notion soleil reprit dans sa conception qu'elle avait la mission, la programmatique de la domination à partir d'un cercle lumineux. Le 27 septembre 1792, quand la Convention proclama la formule selon laquelle la République française était une et indivisible en tant que dimension politique, on ramena à Paris cette impérialité interne de la nation que le roi Soleil avait conquise et qui s'était condensée à Versailles. Et ce qu'on appellerait plus tard le mal français se fit plus fortement remarquer avec chaque décennie qui s'écoula après le transfert de royaume de Versailles vers la métropole. Et Paris n'avait pas seulement hérité des rois la banalisation de la noblesse héréditaire, mais plus encore l'assèchement des régions qui n'a pas été suffisamment compensé jusqu'à ce jour. Il fallut attendre Napoléon pour que s'opère la conversion formelle de la monarchie biblique vers le césarisme de style romain. Et ce fut alors de son couronnement à Notre-Dame de Paris, le 10 décembre 1804, quand il se hâta de remplacer la pieuse couronne par les lauriers pré-chrétiens. Et ce fut également le cas lorsque, par décret de février 1806, il promit à l'armée victorieuse d'Austerlitz qu'elle reviendrait à Paris en passant sous un arc de triomphe. Donc c'est le romanisme triomphal. Et qu'il a voulu faire de son fils, né en 1811 de l'union avec la fille d'empereur Marie-Louise d'Autriche, un roi de Rome, resta un détail marginal face au cours ultérieur des éléments. Si l'on se penche sur les phénomènes restés aigus dans la chaîne des translations imperii, on voit très clairement que l'Europe classique ne constituait ni un territoire, ni une communauté de foi effective, ni jamais ce club chrétien cité si souvent et le plus souvent dans une intention malveillante. La question de ses frontières est donc presque aussi aberrante que celle de son identité. Seul le vecteur le plus actuel du moment de politico-dramaturgique que nous avons évoqué peut être considéré comme l'Europe réelle du point de vue politique. Dans chaque cas, les Européens de service ont toujours été des auteurs différents. Qu'il s'agisse d'Ambroise de Milan ou de Charles Martel. Plus tard, ils s'appelèrent Otto II, Grégoire VII, Charles Quint, Oliver Cromwell et Louis XIV, Napoléon Ier et la Queen Victoria s'inscrivirent eux aussi leur nom sur la liste, et cette dernière en tant qu'impératrice des Indes, comme si le césarisme britannique, passant à côté d'une Europe continentale pleine à craquer, avait préféré l'évasion vers l'Asie. À partir du début du XXe siècle, la version actuelle de la pièce fut reprise par un acteur issu d'un rejet latéral de la domination britannique, les États-Unis d'Amérique. Ce processus n'aurait jamais pu avoir lieu sans le penchant inhérent du script à se détacher du lieu de la première représentation. Le constat dramaturgique ne laisse aucun doute. Quand on considère la ville de Washington sous l'angle de l'urbanisme politique, on distingue sur le champ à quel point le décorum du classicisme impérial de l'ancienne Europe y a retrouvé une place qui a culminé avec la surélévation de la coupole du Capitole achevée en 1863. Les capitales des autres États fédéraux rivalisèrent elles aussi avec Washington en édifiant des state houses en forme de Capitole. Et dès 1782, et avec la création du blason de l'État des États-Unis, on voit apparaître la figure de l'aigle qui, depuis l'Antiquité, symbolisait la souveraineté impériale. Oiseau de Jupiter, il était sacré pour les Romains. Il le représentait pourvu de clairs symbolisant la foudre et le tonnerre de cette force frappant d'en haut qui, depuis, selon Montesquieu, porte le nom d'exécutive. Et les légions romaines défilaient sous les enseignes frappées de l'aquila, l'aigle, c'est devant elle qu'il prêtait serment. Et sur la statue assise créée de 1914 et 1922 au mémorial de Lincoln, le président transfiguré pose ses mains à droite et à gauche sur deux faisceaux de verges romains, les fasces, qui font depuis toujours office de signe de pouvoir d'exécutif. Et en édifiant ce monument à l'ombre de la Première Guerre mondiale, les notables de la capitale américaine rendaient public le fait qu'ils étaient prêts à assumer le rôle de la quatrième Rome. Et il ne fait aucun doute que la politique étrangère des États-Unis a pris au cours du XXe siècle des trains impérialistes, alors que son scénario du XIXe était encore principalement défini par l'extension interne vers l'Ouest. Et ces réflexions, quoique présentées sur le mode rhapsodique et sans volonté d'entrer dans les détails, attirent l'attention sur une conséquence passablement ironique. Selon elles, le moment du phénomène d'Europe, conçu dans une perspective politico-dramaturgique, a cessé depuis un certain temps de se situer dans la partie géographique homonyme du monde. L'Europe agissante, pour ne pas parler d'Europe en fonction, se trouve, après 1945, conformément à sa logique de mise en scène, de l'autre côté de l'Atlantique. Et que le commandement adressé depuis 1945 au monde nord-atlantique proviennent pour l'essentiel d'un bâtiment romanisant qui porte le nom Capitole n'est pas un caprice de l'histoire politique de style. Ce fait est attesté par la stabilité du décorum impérial à travers les époques. Et ce qui vit en lui, c'est la rhétorique antique du sublime et antique sur le terrain des temps modernes. Donc, ces réflexions exigent une réflexion ultérieure à laquelle on veut se consacrer à notre prochaine réunion, lundi suivant, pour redéfinir la position européenne envers l'Empire, dont il ne faut pas dire qu'il est perdu, mais il faut dire qu'on a volontiers renoncé. Et pour cette herméneutique du renoncement européen, je vous invite pour nos réunions ultérieures. Chaque lundi jusqu'à mi-juin, on continue avec ce genre d'exercice. Merci pour votre patience surhumaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.